Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour probablement une de nos dernières interviews ensemble, puisque dans un mois, vous quitterez votre poste de secrétaire général de la CFDT. On va faire quand même un petit bilan ce matin. Vous le faites vous-même d'ailleurs dans ce livre, Du mépris à la colère, essai sur la France au travail que vous publiez ces jours-ci. On va parler dialogue, on va parler salaire et on va parler violence salaire d'abord, parce que c'est l'un des leviers. Aujourd'hui, vous estimez que les entreprises devraient augmenter les salaires, qu'elles ne le font pas et qu'il faut leur mettre la pression.
Oui, on est dans un phénomène d'inflation. On est dans un phénomène où, pour trouver un certain nombre de salariés, c'est compliqué dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et on a des politiques salariales qui sont pas dynamiques. Alors, c'est pas le vrai partout, hein. On a aussi des négociations salariales dans un certain nombre d'entreprises qui se passent bien, ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Mais quand on regarde les branches professionnelles, sur 171 branches professionnelles, avec les relèvements du SMIC successifs liés à l'inflation, ce qui est le fait de relever automatiquement le SMIC, on a 151 de ces 171 branches qui sont en deçà du SMIC, qui commencent avec des échelons en deçà le SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont payés au SMIC. Mais si ils gravissent un échelon,
faut pas non plus créer une sorte de
non, mais
d'opprobre sur toutes les entreprises.
Non, mais je vais vous donner deux
aujourd'hui,
exemples.
Aujourd'hui, officiellement, on est bien d'accord, personne n'est payé en dessous du SMIC. Ça n'est même pas légal.
Pour la durée légale du travail, non. Mais vous êtes payé en dessous du SMIC quand vous êtes à l'échelon de démarrage. Le SMIC, normalement, c'est un salaire d'embauche pour des personnes non qualifiées. Là, vous pouvez l'être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Dans la fonction publique territoriale, ou dans la fonction publique en général, les agents de catégorie C, c'est 12 ans. Ils ont besoin
12
de 12 ans, avant de dépasser le SMIC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce d'absence de reconnaissance de compétences mises en œuvre. Parce que quand vous travaillez, vous mettez des compétences en place, vous vous améliorez, etc. Vous gravissez les échelons, mais on vous le reconnaît pas de façon salariale. Ça, c'est le premier problème. C'est pas possible qu'on continue d'avoir ces effets
de trappe à bas salaire. Il faut réajuster la grille.
Il faut que les branches professionnelles soient contraintes, je le dis bien, de négocier des minima qui démarrent au niveau du SMIC et pas en deçà. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la conditionnalité des aides publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliards qui sont versés aux entreprises pour les aider, parfois à développer de l'emploi. C'est le cas des aides au bas salaire, par exemple. Parfois pour s'inscrire dans la transition écologique, pour investir dans l'appareil industriel, etc. Il faut conditionner au fait que ça aille bien à l'objectif. Comment on peut justifier qu'il y ait autant d'aides versées, autant d'allègements de cotisations pour les entreprises jusqu'à 1,6 fois le SMIC? Et qu'il y ait des minima qui démarrent dans 158
branches. Vous donnez le paradoxe.
Vous pouvez conditionner au fait ces allègements de cotisation. Vous pouvez les conditionner au fait qu'il n'y ait pas dans les branches professionnelles de minimum.
sauf que Laurent Berger, vous le dites vous-même dans la fiche de réception de ces aides. Vous touchez ces aides, certaines de ces aides, parce que ce sont des bas salaires. C'est des aides sur les bas salaires. Si vous augmentez ces salaires, vous touchez plus les aides.
Non, mais vous pouvez.
C'est mécanique. Les
allègements de cotisation, c'est sur ce cas. 1,6 fois le SMIC. Oui, 1,6 fois le SMIC,
c'est largement au-dessus du SMIC. À Biarritz, qui nous appelait en disant, moi j'ai un problème, c'est qu'en effet j'ai des aides pour les bas salaires parce que je viens d'embaucher. Si j'augmente ces salaires, je touche plus ces aides. Donc en fait,
c'est non seulement vrai.
Il va falloir que je trouve l'argent pour augmenter mes salariés, mais en plus, de l'autre côté,
en tout cas, jusqu'à 1,6 fois le SMIC, c'est pas vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir. La CFDT, elle a fait une autre proposition à la Première ministre. C'est d'instituer une commission salaire, bas salaire dans notre pays. Aujourd'hui, on a une commission SMIC qui se réunit tous les ans pour regarder comment va évoluer le SMIC, etc. Mais aujourd'hui, on a une problématique dans notre pays de bas salaire, de salaire qui stagne. Et ça veut dire que si on regarde ça, si cette personne, cet employeur, il vous dit, je ne peux pas augmenter, mais jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il est pas concerné, hein. Donc moi, je demanderais quand même à voir les salaires qu'il pratique auprès de ses salariés. Mais si on voit qu'il y a des trappes à bas salaire, on étudie la façon de les contourner. Mais c'est pas possible de faire en sorte que, c'est ce qui se passe aujourd'hui, qu'on ait des trappes à bas salaire, c'est-à-dire que les entreprises, eh bien, elles bénéficient des aides et en même temps, elles font démarrer les carrières en dessous le SMIC. Alors c'est le SMIC, d'accord, mais c'est le SMIC pendant 10 ans. Comment vous voulez qu'on redonne du goût au travail, qu'on redonne finalement un sentiment de reconnaissance aux travailleurs si on les paye durablement au SMIC?
Et vous avez évoqué d'ailleurs la fonction publique, on va y revenir puisque c'est aujourd'hui que les négociations sur les salaires dans la fonction publique s'ouvrent. On va voir si l'État est capable de donner le bon exemple. Mais je remarque quand même que dans le courant de votre explication à l'instant, vous avez dit, bon, bah voilà, une des propositions proposition qu'on a fait à la première ministre. Donc ça veut dire que ça y est, vous vous parlez, c'est fluide, ça roule, ça avance.
On a une parler, ça veut pas dire que ça avance et que c'est fluide. C'est deux éléments différents. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine dernière, on a été reçus. Et nous, on y est allé avec ce qu'on appelle un cahier revendicatif. On est allé avec un certain nombre de propositions qui concernent l'emploi, qui concernent les évolutions du travail, qui concernent les salaires, qui concernent la protection sociale. Protection sociale, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié non cadre, vous n'avez pas de système de prévoyance obligatoire. Quand vous êtes cadre, il y a un système de prévoyance payé par l'entreprise obligatoire, pas quand vous êtes non cadre. C'est quoi le sens de cette mesure aujourd'hui ?
Vous y avez été avec des propositions, en vous disant que ça allait être fructueux.
Écoutez, au sens, on ne savait pas si ça allait être fructueux, on ne sait toujours pas. Elles ont été écoutées, il n'y a pas eu de réponse sur ces propositions. Et nous, on a dit, écoutez, on continuera de discuter dans les formats qui seront décidés, seulement si, en termes de finalité, il y a des volontés d'avancer concrètement sur les sujets. Le sujet des salaires, le sujet de la protection sociale, le sujet de l'évolution du travail, j'en parle beaucoup dans le livre. Et ça, on n'a pas pour l'instant de réponse, donc on va voir la façon dont ça se passe. La Première ministre continue ses consultations, et ensuite, elle devrait revenir.
Elle reçoit d'ailleurs aujourd'hui le patronat, et elle vous recevra tous ensemble.
Le patronat qui, d'ailleurs, sur la question salariale, sur la question d'évolution du travail, n'est pas exempt d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pour l'instant, ils sont un peu planqués pendant la période des retraites. Maintenant, il faut qu'ils sortent du bois. Ils proposent quoi sur les évolutions salariales ? Ils proposent quoi sur la reconnaissance du travail, sur la négociation obligatoire de l'organisation du travail dans les entreprises, par exemple ? Il va falloir qu'ils fassent un peu leur part de l'effort.
Malgré tout, ça y est, vous avez repris le dialogue, vous avez relancé un certain nombre de chantiers. Tout ça avait été au point mort pendant toute la période de la réforme des retraites. Est-ce que je dois comprendre qu'au fond, cette page, elle est tournée et que vous passez à autre chose ? Avez reconnu qu'au fond, cette bataille-là, elle était manquée, qu'il fallait se battre sur d'autres fronts.
Non, la première chose que j'ai dit à la Première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de page de tournée. C'est que le sujet retraite est encore d'actualité. Je vous rappelle qu'il y a une proposition de loi du groupe Liotte pour le 8 juin qui peut être la première fois où le Parlement s'exprime, vote sur le report de l'âge égal de 62 à 64 ans.
Alors, je n'ai pas l'impression que là-dessus, vous ayez réussi à la convaincre, parce que ça fait partie des choses que vous lui avez demandé à Elisabeth Borne. Le lendemain, voire même le soir, elle disait que ce n'est pas constitutionnel.
Ce n'est pas à elle de le définir, c'est au Conseil constitutionnel de définir si c'est constitutionnel ou pas.
Vous espérez en tout cas que ce jour-là, il y aura un vote.
Bien sûr, j'espère que symboliquement, à minima, ça ne veut pas dire que la loi serait abrogée dans l'instant, mais symboliquement, à minima, il y a un vote du Parlement sur ce report de 62 à 64 ans. Parce que cette PPL, elle dit quoi ?
Proposition de loi.
Elle dit report, on ne fait pas le report à 64 ans. Elle dit aussi conférence de financement, sitôt le vote de cette loi, pour regarder quelle autre source de financement. C'est ce qui aurait dû être fait dès le départ. C'est ce que le gouvernement a refusé en balayant toutes nos propositions de financement par l'emploi des seniors, par les cotisations et d'autres mesures encore.
Quand vous dites que la page n'est pas tournée, est-ce que ça veut dire que la blessure, la difficulté à se comprendre, à même se parler entre le gouvernement, entre Emmanuel Macron et vous, les syndicats, elle est trop profonde pour être cicatrisée ?
Elle est profonde ? Mais c'est surtout pas avec nous, c'est surtout avec les travailleurs et les travailleuses. Vous savez, moi je parle dans ce livre de ressentiment, de mépris qui a été ressenti, mais aussi de colère. C'est toujours très présent. D'ailleurs, on appelle
les salariés. Le mépris a entraîné la colère.
Mais bien sûr, le mépris a entraîné la colère.
Le mépris avec d'Emmanuel Macron, il faut dire les choses.
Oui, à l'égard du travail, mais l'impensé politique parfois sur la question du travail. C'est-à-dire que quand on a parlé retraite, on n'a pas parlé du travail. Et aujourd'hui, on nous invite à parler de quoi ? On nous invite à parler de l'emploi des seniors, de l'usure au travail, des conditions de travail, de l'organisation du travail. Et pourquoi nous, on n'a pas commencé par ça ? Pourquoi on n'a pas commencé par ça ? Et donc,
vous savez,
je vais vous dire, il n'y a pas de page qui se tourne, il y a toujours de la colère, mais il y a un rôle de syndicaliste à tenir. C'est quoi le rôle de syndicaliste dans une entreprise comme au niveau national quand on a en face de nous un gouvernement ? C'est d'aller défendre des propositions pour améliorer le quotidien des travailleurs et des travailleuses. C'est seulement ça notre boussole. C'est pas de savoir s'il faut reparler avec un tel ou un tel. C'est comment on peut améliorer en termes de salaire, en termes de conditions de travail, de prévoyance, de protection sociale, la situation des travailleurs. Nous, on y va avec des propositions. Il faut que le gouvernement comprenne une chose. S'il veut faire des mesurettes, c'est sans nous. S'il veut faire juste quelques ajustements, c'est sans nous. S'il veut changer profondément la nature du monde du travail, avoir un peu plus de pression sur les entreprises, la façon dont elles reconnaissent leur travail,
alors là, dans ces cas-là,
eh bien, on discutera.
Laurent Berger, justement, dans votre livre, vous dites notamment, depuis 2017, c'est la verticalité qui a été choisie. Avec ces derniers mois, une forme de paroxysme et un président qui, par orgueil ou par incapacité, je ne sais pas ce qui est le mieux, ne veut pas écouter les organisations syndicales et néglige les corps intermédiaires. Ça n'a vraiment pas marché avec lui.
Ah bah c'est, mais c'est pas une question de relation interpersonnelle.
Non, je ne sais pas si vous voulez m'emmener là-dessus,
mais je crois que c'est pas le sujet. Ça n'a pas. Il y a une vision des corps intermédiaires. Ça a été théorisé une partie de
ses collaborateurs. En fait, le reproche que vous lui faites, c'est un reproche très profond. C'est pas juste des erreurs, c'est pas juste des accidents de parcours.
Il y a deux problèmes, si vous voulez. Il y a un problème qui est la question de la perception du travail aujourd'hui. Le travail, il est prisonnier. La notion de travail, la vie des travailleurs et travailleuses est prisonnière entre deux visions qui sont stériles. La première, c'est de voir le travail comme une seule force productive, comme une seule donnée économique. Le travail, c'est une réalité sociale, c'est du vécu, c'est un facteur d'émancipation, mais aussi de souffrance, etc. Voilà. Et le deuxième, c'est cette vision qui est défendue par certains, que le travail, ce serait que aliénation et émancipation, que quelque chose de négatif, en réclamant, par exemple, le droit à la part, etc. Et pendant ce temps-là, on oublie de parler des travailleurs et des travailleuses. Et donc, ça, il y a eu un impensé. C'est pas que le fait du président de la République.
Je vous écoute, vous êtes pris en tenaille entre d'un côté la vision du président de la République, de l'autre la vision d'une Sandrine Rousseau ou de la NUPES.
Les travailleurs et les travailleuses ont le sentiment qu'on ne parle pas d'eux. Mmh. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une conception du pouvoir.
Ces
deux visions, je crois qu'elles ne parlent pas du travail réel.
Donc,
elles ne parlent pas de la vraie vie des travailleurs et des travailleuses.
Cette partie de la gauche dont vous parlez, pour vous, ne tient pas véritablement compte des
travailleurs. Vous ne pouvez pas avoir dans votre sigle la CFDT comme le sigle d'autres organisations, comme la CGT par exemple, le mot travail, en considérant que le travail c'est de la merde. Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas ce que pensent les travailleurs et travailleuses.
Donc, ils veulent être reconnus.
Ils veulent être écoutés. C'est vraiment pas notre conception.
Vous vous êtes senti injurieux?
Injurieux, non.
Enfin, le travail,
non,
en tout cas.
Non, mais en tout cas, j'ai senti que c'était pas du tout en phase avec le monde du travail. Le deuxième élément, c'est que ce président de la République, depuis le début, il a considéré que les corps intermédiaires, c'était has-been. Il a considéré que le syndicalisme, c'était de l'entreprise, vous ne l'ouvrez pas par ailleurs. Et puis, on essaye de faire le peuple et moi. On lui a démontré quoi pendant ce conflit des retraites? C'est que le syndicalisme, il était central aujourd'hui dans le monde du travail. Il était attendu, il était respecté, il était considéré, un taux de satisfaction à l'égard des organisations syndicales qui est très important, et il avait une puissance en termes de mobilisation. Et donc, je crois qu'il faut qu'il revienne à l'idée que y a pas les évolutions se feront pas en termes de transformation écologique, de transformation sociale, de transformation du travail qui sont devant nous, sans associer, sans co-construire avec les organisations syndicales.
Et en même temps, Laurent Berger, le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1982. 7,1. Bravo Macron.
C'est une très bonne nouvelle. Bravo les politiques qui ont été menées depuis un certain nombre d'années, ouais, bien sûr. Après, il y a des éléments démographiques qui ont compté. Mais c'était même antérieur à 2017. En tout cas, il y a une politique qui a été menée, qui a permis de créer des emplois. Personne ne va critiquer ça.
François Hollande en a rêvé. Et c'est Emmanuel Macron qui en a récolté les fruits.
En partie. Mais il reste plus de 5 millions de chômeurs dans notre pays, des personnes qui sont de plus en plus éloignées du marché du travail. Et donc la question maintenant, c'est quel accompagnement, pas pression, pas sanction, quel accompagnement on va faire de ces personnes pour qu'ils puissent retrouver un travail alors qu'il y a des besoins dans beaucoup de secteurs. C'est ça, et c'est l'enjeu formation, c'est l'enjeu frein à l'emploi que sont la garde d'emploi, la garde d'enfants, le transport, le logement, qui sont des freins importants au retour à l'emploi. C'est tout ça qu'il faut regarder, accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi.
Laurent Berger, vous avez parlé aussi de la difficulté d'Emmanuel Macron à avoir de la considération, au fond, pour les syndicats. On sent qu'il y a vraiment, à vos yeux aussi, une vraie bataille idéologique avec sa vision à lui. Quand vous voyez que la personnalité du président a à ce point cristallisé les colères, vous parlez de colère dans votre livre, quand vous voyez les actes de violence qui ont eu lieu contre le neveu de Brigitte Macron la semaine dernière, est-ce que c'est ce que vous aviez redouté? Vous avez souvent dit à ce micro combien vous redoutiez que la violence à un moment ne déborde. Est-ce que c'en est l'un des signaux?
Non, je ne veux pas dire j'avais prévenu ce qui est en train de se passer. Ces actes, ils sont scandaleux. Depuis le début, la CFDT, et moi en particulier, on dit tout acte de violence, qu'elle soit symbolique ou physique, ou réelle, physique, c'est condamnable, on le condamne. Et donc ce qui s'est passé avec le neveu de Mme Macron, c'est juste un scandale de quelques crétins, et il n'y a pas à nuancer quoi que ce soit là-dedans, comme à chaque fois qu'il y a des violences physiques ou symboliques. Ce que je dis, c'est que cette colère-là, on l'a senti monter. On l'a senti monter depuis janvier, il y avait un sentiment de mépris. C'est-à-dire, en gros, c'est quand même ce monde du travail qui s'est mobilisé pendant la période de confinement, à qui on disait, c'est 2 ans de plus. Et puis ce mépris, avec le 49-3, avec un certain nombre de discours, etc., eh bien, il s'est transformé en colère. Le fait de ne pas être écouté, de ne pas être reçu, il s'est transformé en colère. Et que cette colère du monde du travail, eh bien, va falloir y répondre. Et on y répond comment ? D'abord, faisant en sorte, d'ailleurs, en faisant en sorte que le Parlement se prononce sur les 64 ans.
Donc la première réponse, c'est de laisser le Parlement voter pour cette proposition.
Ça, c'est sûr. Si c'est pas le cas, il va y avoir beaucoup de réactions. Le deuxième élément, c'est c'est de cette réforme des retraites, elle n'est pas, les décrets sont pas encore parus.
Quand vous dites si c'est pas le cas,
ça crée beaucoup de désordre. Hein. On voit encore dans la presse ce matin des entreprises qui disent mais on ne sait pas quoi faire parce qu'il y a des salariés qui vont potentiellement revenir ou qui vont potentiellement rester. On ne sait pas, on n'a pas les décrets.
Ce que vous voulez dire, c'est que vous savez pas. Enfin, pour les entreprises, s'organiser, savoir si en septembre ceux qui devaient partir à la retraite vont rester ou non. Non, mais attendez.
Il faut une vraie reconnaissance du monde du travail.
Oui, mais sur cette question, Laurent Berger, quand vous dites si c'est pas le cas, si le Parlement ne peut pas voter, il y aura de fortes réactions. Est-ce que ça veut dire que vous imaginez des réactions du même ordre que lorsque le 49-3 a été annoncé? C'est du même ordre pour vous refuser que l'Assemblée ne se prononce?
Je crois, il y a encore une fois rien sur le processus légal de cette adoption de cette réforme, sur le processus politique, sur le processus démocratique, il y a beaucoup de vices. Je l'ai dit dès le départ. Ça serait un vice supplémentaire que d'empêcher le Parlement de débattre. Ça, c'est clair et net. Et on l'a dit, on l'avait dit avant le 49-3, que ça allait créer beaucoup de colère, ça créera de nouveau de la colère. Et ensuite, il faut que le travail soit de nouveau considéré dans notre pays, ce qui n'est pas le cas. On ne parle du travail que comme un coût, trop souvent, ou comme un problème. Il faut qu'on parle du travail comme une reconnaissance, une écoute des travailleurs et travailleuses. C'est ces propositions que je fais dans ce livre, parce qu'il faut qu'on sorte de cette logique que les travailleurs seraient des êtres mineurs à qui il ne faudrait jamais demander leur avis.
Laurent Berger, sur les salaires, on a parlé des salaires pour les entreprises, mais il y a un grand employeur qui est l'État. Aujourd'hui s'ouvrent les négociations sur le salaire de la fonction publique. La CFDT d'ailleurs y est associée. Est-ce que vous vous dites c'est quand même à l'État de montrer l'exemple? Qu'est-ce que vous en attendez?
Oui, mais l'État, il doit montrer l'exemple, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les agents publics, ils font un travail extraordinaire dans tous les secteurs. Ils ont aussi ce sentiment de non-reconnaissance. Et donc, la CFDT Fonction Publique fait des propositions en termes d'augmentation pour tous les agents publics. Il y a des augmentations aussi pour les basses catégories qu'il faut booster. Je vous ai parlé de 12 échelons quand on est agent de catégorie C avant d'être payé au SMIC. Pour correspondre à son échelon. Et donc, il faut des augmentations salariales. Il faut que la puissance publique considère que ces agents publics sont une richesse. Ils sont pas un coût. C'est une richesse. On fait pas aujourd'hui sans les enseignants qui sont sous-payés. On fait pas sans les agents des collectivités territoriales, dans les écoles ou ailleurs, sans qui on peut pas vivre comme on le vit aujourd'hui. On fait pas sans les agents de Bercy, sans qui on peut pas faire les contrôles donc on nous promet aujourd'hui sur l'optimisation, enfin sur la fiscalité, etc. Donc vous voyez,
il faut une augmentation nette, il faut quelque chose qui soit de l'ordre d'un choc.
Sûr. Oui,
les dernières augmentations, c'était pour certains
catégories
les plus modestes, ça représentait 7 euros par mois.
Oui, mais il faut que ce soit visible. Et vous voyez bien qu'il faut que ce soit visible en termes d'augmentation. Il faut que ce soit visible aussi en termes de dynamique professionnelle, de dynamique de carrière. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive plus à recruter dans la fonction publique? Pour deux raisons. C'est parce que les salaires sont faibles et parce qu'il n'y a pas de perspective d'évolution de carrière trop souvent. Eh bien, c'est maintenant, si on ne veut pas se retrouver dans des situations incroyables, hein. Il y a un concours d'enseignants du premier degré, de professeurs des écoles, qui ne fait pas le plein par rapport au nombre de postes.
Il n'y a même pas assez de candidats.
Donc on a bien un problème. Et si on ne le prend pas à la source, c'est-à-dire la rémunération et l'évolution des carrières, on passe à côté du problème.
Vous ferez quoi après le 21 juin, Laurent Berger?
C'est pas décidé. D'abord, je vais prendre un peu de temps pour me reposer, me recentrer sur ma famille, mes amis. Et puis, à partir de septembre, je vais travailler, mais j'ai pas encore décidé où.
Vous avez pas encore décidé où, mais vous avez des propositions?
Oui, j'ai des propositions, évidemment. J'ai des propositions qui sont intéressantes pour nombre d'entre elles. Il y en a beaucoup que j'écarte quand on voudrait me faire revenir dans la vie publique à travers la politique ou ailleurs. Mais je travaillerai et je veux faire un travail où j'ai un impact et puis je veux continuer à être un militant. Donc c'est encore assez ouvert et j'aurai tout.
On sait que Philippe Martinez est retourné travailler chez Renault. Vous n'étiez pas lié à une entreprise en particulier?
Non, parce que j'étais dans une petite entreprise dont j'ai rompu le contrat quand je suis parti faire du syndicalisme. J'ai encore beaucoup de temps pour y réfléchir parce que Non, je vous dis non, je l'ai dit.
Oui, vous le dites à chaque fois, mais c'est vrai que ça crée, y compris chez certains, vous disiez, il y a un trou entre la vision d'un Emmanuel Macron sur le travail et la vision d'une Sandrine Rousseau pour faire quoi? Est-ce que cet espace au milieu, il ne doit pas être incarné par vous?
Incarné, je ne crois pas, non. Je suis sûr que non. Par contre, est-ce qu'il y a à contribuer pour que, en termes de justice sociale, en termes de transformation écologique, etc., à contribuer d'autres manières, je resterai un militant. Et vous savez qu'on a une alliance qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vivre, qui, je crois, est une belle alliance de plusieurs, de 65 organisations. Je peux filer un coup de main là, mais il faudra d'abord que je trouve un travail, un vrai travail, et je m'y emploie.
Et vous vous y employez. Merci en tout cas, Laurent Berger, d'être venu dans ce studio répondre à mes questions. Je rappelle le titre de votre livre, Du mépris à la colère, essai sur la France au travail. Et au moment où vous parliez, on apprend que le texte sur le partage de la valeur sera bien présenté en Conseil des ministres mercredi. Une victoire? Première.
Oui, en tout cas, faut voir le contenu, mais en tout cas, ça veut dire que quand les organisations syndicales et patronales se mettent d'accord, on est capable de créer du progrès, condition que les politiques l'écoutent.
Vous resterez donc très attentifs. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.